Est-ce que vous lisez les commentaires lorsque vous allez sur un site comme Radio-Canada, comme le Journal de Montréal ou n'importe quel grand média qui soit ici ou étranger? Personnellement, non seulement je ne commente plus depuis longtemps, mais je ne les lis plus. Pourquoi? Ben, la raison est simple, c'est parce que pour moi, lorsqu'il y a des commentaires, ça devrait ajouter au débat. On devrait écrire un commentaire lorsqu'on a quelque chose à dire, lorsqu'on a des arguments à apporter, lorsqu'on a des choses ou des angles différents, neufs, qui n'ont pas été abordés par la personne qui a écrit le texte. Ça arrive à l'occasion, mais de moins en moins. Et on a de plus en plus de bruit. On a juste à regarder qu'est-ce qui s'est passé récemment avec Alexandre Taillefer et Jeff Fillion pour se prouver que, de part et d'autre, les commentaires étaient absolument, non seulement inutiles, mais blessants, terribles, surtout considérant le fait que Alexandre Taillefer a perdu son fils. Je me pose la question à savoir pourquoi les gens qui font des commentaires négatifs ou qui vraiment font des menaces épouvantables aux gens, pourquoi ils le font? C'est comme s'ils se sentaient investis d'une mission divine où est-ce qu'ils doivent absolument prendre de leur temps, prendre leur clavier et aller déverser leur fiel, alors que c'est des gens qui ne connaissent pas, avec lesquels ils n'ont absolument aucune connexion. Et moi, ça me fascine parce que qu'est-ce qui va faire qu'on va se mettre à détester à ce point-là quelqu'un au point de perdre son temps littéralement à aller écrire des commentaires? Et ça, c'est totalement fascinant parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui écrivent des commentaires tout simplement parce qu'ils haïssent quelque chose. Tu sais, moi, personnellement, lorsque j'aime pas quelque chose, par exemple à la télé, ben je l'écoute pas. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, ben je passe tout droit, je laisse faire. Je comprends pas cette mentalité-là. Ou est-ce qu'on se sent absolument, absolument obligé parce que ça n'ajoute rien? Et je sais, j'en ai déjà probablement parlé auparavant, mais la plupart des gens, des scientifiques qui ont été impliqués dans les balbutiements d'Internet et les grands penseurs croyaient qu'avec l'accès à l'information, la plupart des gens allaient devenir plus intelligents, allait servir d'Internet pour s'éduquer, pour développer leur côté, leur pensée critique, qui allait acquérir plus de savoir, plus d'informations et que tout le monde allait collectivement se développer. Et on voit un peu l'effet inverse, surtout quand on lit les commentaires. Pourquoi? Mais ça s'explique de différentes façons. La première, c'est surtout que avec l'offre d'informations qu'on a en ce moment, c'est qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix de ce qu'on veut voir ou ce qu'on ne veut pas voir. Donc, la plupart des gens ne font que consulter ce qu'ils apprécient à la base sans faire preuve de curiosité sans essayer d'aller voir autre chose. Donc, la majorité des gens vont toujours jouer dans le même carré de sable, vont toujours faire du surplace finalement intellectuellement et ne se développeront pas plus loin. Et pour moi, c'est, je crois, la plus grande tristesse que j'ai par rapport à l'Internet, c'est que plutôt que de s'en servir comme outil de création, comme outil pour s'instruire, comme outil pour devenir intelligent, la plupart des gens s'en servent comme outil de destruction. Mon nom est Sylvain Grandmaison. Vous écoutez Le Québec en balado-diffusion. D'entendre Speak Low de Coleman Hawkins, tiré d'un album de Prestige Jazz. Je crois que j'avais acheté ça il y a quand même un certain temps chez Starbucks. Je crois même que c'était lors d'un voyage à New York. Donc, une compilation de Prestige Jazz et c'est assez bon. Si vous n'aimez pas le jazz ou si vous avez trouvé ça long, ben, je vous en voudrais pas d'avoir... avancer un peu rapidement la chanson. Avant de commencer l'émission, ben, je voulais vous dire deux, trois petites choses concernant Québec Balado en général. Premièrement, ben, il y a un groupe Facebook qui existe depuis longtemps, qui était un peu en dormance, mais que je réactive tranquillement. En fait, qu'est-ce que je fais? Là, je publie l'audio de mes émissions là, avant des rendre public. Donc, dès qu'ils sont enregistrés, dès que le MP3 est transféré sur le web, je les partage sur le groupe Facebook. Parfois, ça me prend une journée ou deux avant que je termine de taper mon billet de blog et rentrer toutes les informations dans WordPress. Donc, allez faire un tour là. Vous allez avoir les choses avant tout le monde. Il y a en ce moment un nouveau site aussi pour Québec Balado. Écoutez, j'ai fait un site temporaire il y a 10 ans et il n'a jamais changé. Donc, en ce moment, je suis en train de rebâtir ça un peu avec une base de thèmes WordPress que je suis en train de customiser et de traduire aussi. Donc, ça risque de prendre encore un petit peu de temps pour être finalisé, mais au moins, ça fonctionne, puis c'est responsive, donc ça vaut la peine d'investir un peu de temps là-dedans. Une autre chose, ben, je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, allez sur le répertoire d'iTunes ou dans l'application podcast, cherchez pour Québec. Donc, dans les podcasts, vous allez trouver Québec Balado. Cliquez dessus. Allez ajouter des étoiles. Allez ajouter des commentaires. Vous le savez, je ne vous demande pas un sou pour cette émission-là. Donc, en retour, tout ce que je vous demande, c'est allez mettre des bons commentaires, rajouter des étoiles. C'est drôlement apprécié et ça aide énormément au classement dans iTunes. Une autre chose, c'est je me posais la question, si je produisais un autre podcast, un autre show, est-ce que vous seriez à l'écoute? Est-ce que ça vous intéresserait? Carrément dans un autre style, par contre, pas nécessairement un podcast où est-ce que je déblatère pendant une heure. Vraiment, vraiment autre chose, d'un peu plus structuré, un peu plus formaté. Pas nécessairement comme la radio traditionnelle, mais quand même quelque chose qui... qui ressemble un petit peu plus à ce que fait NPR aux États-Unis ou la CBC au Canada anglais. Donc, envoyez-moi un commentaire. Dites-moi si vous aimeriez ça. Pourquoi je ferais ça? Ben parce que dernièrement, il y a beaucoup de choses qui se passent du côté balado. En plus de ça, ben moi, je suis un gars d'idées, donc j'ai des tonnes d'idées. Et j'ai rencontré des gens, des amis, bien souvent, qui ont envie de s'associer avec moi. On a le goût de faire des choses ensemble au niveau podcasting, puis partir des petites choses. Donc, j'ai plusieurs idées. C'est sûr, vous risquez d'en entendre parler, mais j'aimerais quand même savoir qu'est-ce que vous en pensez. Suite à l'épisode où est-ce que je parlais de la viralité et bon, ce qui est arrivé suite aux attentats en Belgique, petite nouvelle, vraisemblablement, mon illustration de Tintin risque de se retrouver chez le premier ministre belge, premièrement, au cabinet. Il me reste juste à faire parvenir l'illustration. Et vraisemblablement aussi, le roi de Belgique en aura une copie. C'est une histoire qui dépasse pour moi l'entendement parce que c'était pas du tout prévu. Et en plus de ça, ben, je suis invité à aller parler à des étudiants en communication à l'université pour leur parler pas simplement de cette aventure-là, mais aussi des médias, leur parler aussi de podcasting et différents sujets par rapport aux médias sociaux. Oui, il y en a un, bien sûr, le carburant de la semaine. Et je vous l'ouvre à l'instant, d'ici quelques secondes. c'est une bière de la brasserie Glutenberg, que j'ai déjà parlé auparavant, qui font des bières sans gluten, avec un nom un peu paradoxal. Glutenberg, ça veut dire montagne de gluten quand même. C'est une bière de millet et celle que je vous propose. C'est une édition limitée. Ils font ça dernièrement, beaucoup de bières de courte durée, des saisonnières. En même temps, c'est une tendance lourde dans l'industrie brassicole, donc de faire des bières plus spéciales, saisonnières, une fois de temps en temps. Et c'est une stout impériale. Juste de brasser sans gluten, c'est déjà un bon défi. De faire une stout en plus, c'est un double défi. Et là, une stout impériale qui fait dans les 8% d'alcool, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'est une bière forte, bien sûr. J'essaie de voir, il n'y a pas de description, il n'y a rien dessus. On nous décrit juste la liste d'ingrédients. Donc, au niveau des grains, c'est du millet, du sarrasin. Il y a des houblons, du sirop candy, du café, grué de cacao et de la levure. Bien sûr, je vais déboucher ça. Oh, elle est costaude. Ça ne sera pas long. Je vais utiliser mon décapsuleur. Et je la verse. Contrairement au stout habituel avec gluten, il n'y a pas une mousse persistante. La mousse se dissipe instantanément. Beaucoup d'effluves de cacao et de café. Il y en a dedans, c'est normal. En même temps, il y a un petit côté grillé au nez. Et je vais la goûter dans vos oreilles. C'est surprenant. Surprenant parce que c'est une bière sans gluten, puis les arômes sont là, vraiment, tout est là. C'est la texture en bouche qui est un peu différente. C'est sûr, c'est pas fait avec le même genre de grain. C'est extrêmement difficile de brasser sans gluten, mais le résultat est vraiment là. C'est bon parce que l'alcool n'est pas trop présent. C'est sûr, beaucoup de notes de grains torréfiés, de café, de cacao. Puis, il y a un petit côté bonbon que, et fruité que j'arrive pas à décrire, mais c'est surprenant, c'est vachement bon. Sans savoir que c'était du sans gluten, j'aurais pas pensé, à part l'indice au niveau de la mousse qui est pas persistante, mais j'aurais vraiment pas pensé. Donc, je félicite vraiment les gens de Glutenberg pour cette réussite. Non, il n'y a pas le feu. Sauf que il y a une bonne nouvelle, une grande nouvelle en fait au niveau du podcasting en ce moment, au niveau des répertoires, parce que les podcasts débarquent sur Google Play Music. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Bien, on peut soumettre son émission. L'approbation se fait en deux étapes. Donc, premièrement, ils approuvent le contenu. Donc, j'ai eu le OK quand même assez vite, en dedans d'une journée. Et par la suite, l'émission va se retrouver sur le Play Store. Et ça, c'est un petit peu plus long. On dit que ça prend une semaine et des fois un petit peu plus. Depuis que je l'ai soumis, j'ai pas encore eu la confirmation. Ça se retrouve pas encore là. Si vous avez un podcast, je vous conseille d'aller l'inscrire là. Et j'ai pas regardé tous les termes de Google. Je crains quand même qu'ils refusent mon podcast parce que je fais jouer de la musique commerciale quand même dans mon émission. Mais on va voir, je vais vous tenir au courant lorsque ce sera là. Et peut-être lorsque ce sera là, je vous demanderai d'aller faire un petit tour. Peut-être ajouter aussi des commentaires, ajouter des étoiles. Ça me ferait vraiment plaisir, ça aussi. Un petit mot pour vous dire que la campagne Indiegogo des Mystérieux Étonnants a eu vraiment un énorme succès. Premièrement, c'est quoi les Mystérieux Étonnants? Ben, c'est un podcast de gens qui sont un peu geeks. Oui, ils aiment le jeu vidéo, ils aiment les technologies, le podcasting aussi. C'est mené de main de maître par Benoît Mercier, qui est à la barre de cette émission-là depuis quand même assez longtemps. Il est impliqué au niveau du podcasting depuis à peu près une dizaine d'années, mais les Mystérieux Étonnants, c'est un petit peu plus jeune que ça, je dirais peut-être autour de entre 6 et 8 ans, ce qui est quand même vénérable dans le domaine du podcasting, et ils le font avec une régularité, je dirais, quasiment déconcertante, parce que vraiment, ils sont très steady. Ils produisent presque littéralement à toutes les semaines. Comment ils réussissent à faire ça? Ben, c'est sûr que eux, ils ont été sur les ondes de radio plus traditionnelles, donc la radio communautaire de Montréal, et en ce moment, c'est diffusé à la radio de l'UQAM, donc ils n'ont pas le choix d'aller remplir cette case-là. Donc, leur spot est réservé. Quand tu as une émission animée à la radio traditionnelle, il faut que tu sois là, il faut que tu livres la marchandise. Donc, c'est une bonne façon, c'est un bon motivateur. Pourquoi ils ont une campagne Indiegogo? Ben, premièrement, c'est pour se bâtir un studio, pour pas être dépendant justement d'un studio d'enregistrement comme ceux de ces radios-là. Donc, ils vont peut-être probablement continuer à diffuser sur ce genre de plateforme-là, sur ce genre de radio traditionnelle-là, mais en même temps, ils seront plus obligés d'aller enregistrer sur place et le diffuser live à tout moment. Donc, c'est un gros avantage. L'autre avantage, c'est d'avoir son propre studio. Je pense que les gars ont beaucoup d'idées pour produire d'autres shows. Quand tu as un spot de une heure ou deux dans une radio traditionnelle, ben, tu es là pour le temps que dure l'émission. Puis après ça, ben, faut que tu cèdes ta place au suivant. Quand on a un studio à la maison, on peut enregistrer n'importe quand. Je ne sais pas où sera situé leur studio, mais ceci dit, juste pour vous donner une idée, eux, il y avait un objectif quand même assez costaud, c'est-à-dire 16 000 $. Et la campagne s'est terminée très, très, très récemment. Je pense même aujourd'hui, au moment où est-ce que j'enregistre l'émission, et ils ont récolté 18 290 $, ce qui est absolument hallucinant dans le milieu du podcasting québécois, d'aller chercher autant d'argent comme ça. C'est signe que les gars ont du succès, sont pertinents, et je pense que tout le monde a envie d'en entendre beaucoup plus d'eux autres. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous recommander d'aller contribuer à leur campagne, mais je peux vous recommander, par contre, d'aller les écouter. C'est vraiment un bon podcast, c'est vraiment des bons gars qui participent à ça, et ça vaut la peine. Je vais vous faire jouer une autre chanson. Cette fois-ci, c'est « If I Were a Bell » de Red Garland. Pendant ce temps-là, je vais prendre quelques gorgées et je vous reparle tout de suite après.
Thank you.
De choses à vous parler. Premièrement, parler un peu de Facebook Live qui était disponible en bêta auparavant et maintenant qui est un peu plus disponible à tout le monde. Je ne sais pas si vous l'avez essayé ou si vous en avez vu. Moi, j'ai participé à parfois des webinaires avec ça. J'ai vu des trucs dans les coulisses de certains événements. Ou par exemple des gens qui discutent devant la caméra pour parler d'un sujet en particulier. Ou bon, des fois des gens qui l'essayent pour le fun et bon, qui sont en train de se faire à souper. Ça, c'est un peu drôle. Il y a toutes sortes d'applications pour le Facebook Live. C'est assez intéressant parce qu'on peut attraper les gens qui sont là, qui sont devant leur écran à ce moment-là, puis bon, ils sont avisés qu'on est live. En même temps, aussi, lorsqu'on voit des gens qui sont live, ben, Facebook nous suggère de recevoir des notifications. Donc, on peut s'abonner, avoir une notification quand la personne devient live. Donc, c'est vachement intéressant. Puis, je vais peut-être l'essayer. J'aimerais peut-être enregistrer un épisode avec ça. Éventuellement, donc, le faire devant la caméra, mais en même temps, ben, le produire sous forme de podcast. Il y a un utilitaire aussi pour créer des previews de podcast en 24 secondes ou moins. Donc, 24 secondes, c'est très court, mais c'est un peu comme, c'est un peu comme une pub. C'est un peu comme un démo, comme une présentation de notre podcast. Donc, en 24 secondes, ça s'appelle Clammr. Donc, clammr.com. Qu'est-ce que ça fait? Ben, oui, c'est sûr qu'on produit un extrait, mais en même temps, ce que ça fait, c'est que ça fait un player où est-ce qu'il y a aussi du visuel. Et c'est le problème, je pense, des players sur le web pour les podcasts, c'est qu'il n'y a pas de visuel, on voit juste play, donc les gens ne sont pas portés à cliquer dessus. Donc, quand il y a un peu de visuel, ça aide beaucoup. Puis, ce truc-là fait ça. Donc, je connais des amis qui l'utilisent. Puis, ça marche quand même assez bien. Donc, je vous le conseille. Il y a une application pour iOS, entre autres, qui s'appelle iJingle. iJingle, ben le nom le dit, ça sert à faire jouer des jingles. C'est une application quand même assez professionnelle qu'on peut configurer vraiment vraiment en détail. C'est sous la forme d'un, comme on dit, d'un audio cart. Donc, où est-ce que on a plein de boutons, où est-ce qu'on assigne de l'audio à certains endroits. Et quand on pèse dessus, ben ça marche. Il y a aussi des faders, il y a aussi des channels. Je ne l'ai pas essayé vraiment en détail, je l'ai juste regardé parce qu'il y a une version gratuite puis il y a une version pro. La version gratuite fait à peu près ce que fait les autres applications du genre que j'ai déjà, mais avec une plus belle interface. La version professionnelle, c'est elle qui a beaucoup de configurations, puis à moins de jouer dedans, on ne sait pas trop en détail qu'est-ce qu'elle fait. C'est sûr qu'il y a des fonctions de looping, donc si vous avez des loops pour faire jouer en arrière-plan, ben il va faire jouer le loop. Il y a des fonctions, ce qu'on appelle du docking, c'est-à-dire que lorsqu'on parle, la musique baisse automatiquement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment configurer là, pile-poil le niveau sonore à laquelle ça va baisser lorsqu'on est en train de parler. Tout ça est assez intéressant. La version gratuite est vraiment le fun parce qu'elle est gratuite, entre autres. Mais la version payante, selon moi, pour ce que ça fait, c'est un peu cher. C'est $14.99. C'est disponible en iOS et Android. Et pour $14.99, c'est même plus cher que la application BuzzJock que j'utilise de podcasting, qui a un audio card intégré, mais en plus de ça, qui permet justement d'enregistrer ses podcasts, de les transférer via FTP, de les publier et que l'audio est géré avec Dropbox et avec différents utilitaires. Donc, c'est un peu cher. En même temps, je vous conseille quand même, si ça vous intéresse, d'aller faire un tour parce que ça peut être l'application qui vous convient à vous. Je ne le sais pas, donc allez faire un tour pour aller voir iJingle. Un autre truc qui s'appelle Anchor, je pense que... Est-ce que je n'avais parlé? Peut-être que je n'avais parlé. Ça permet de repenser un petit peu comment l'audio est produit. C'est une application aussi qui a eu un très, très bon lancement. Beaucoup de gens ont parlé. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que cette application, la façon qu'elle fonctionne, ça pourrait vraiment changer la façon de produire l'audio dans le futur. Moi, je pense que, c'est un peu gros, comme nouvelle. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper, hyper simple. Ça fonctionne évidemment sur iOS et en un bouton, on enregistre et ça se fait vraiment très simplement. Si vous n'avez pas déjà une application pour faire du podcasting, peut-être que cela pourrait vous intéresser. Évidemment, cette compagnie-là a eu de l'argent du Venture Capital, donc c'est une start-up. Il y a eu de l'argent d'investi. Évidemment, ils misent beaucoup là-dessus. Évidemment, ils ont des gens qui font la promotion puis qui essaient de faire parler de l'application pour créer le buzz. Je ne sais pas jusqu'à quel point il y a un buzz là-dessus, mais pour l'avoir essayé, c'est simple, ça fonctionne bien. Ça vaut la peine de mettre nos doigts dessus et d'essayer de faire quelque chose avec ça. Une autre application que j'avais aussi déjà parlé qui s'appelle Zcast, et elle aussi, Zcast a eu non seulement un bon lancement, mais ça a été salué un peu partout. La qualité du lancement, la façon qu'ils ont communiqué avec les médias pour lancer cette application-là. Donc, évidemment, c'est une version démo. Zcast, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'enregistrer live, donc de commencer un enregistrement et là, les gens écoutent en temps réel, peuvent interagir avec nous. Ça fait partie de ces nouvelles applications-là qui nous permettent de diffuser live, d'enregistrer en même temps et après ça, passer l'audio dans notre fil RSS pour le redistribuer sous forme de podcast. Donc, ça vaut vraiment la peine. Si vous avez envie de faire du live en podcasting, jetez un œil sur Zcast. Oh, Oui, il y a une étude qui dit que les podcasts attirent des jeunes gens éduqués qui ont de l'argent et qui ne sont pas joignables par la radio. Donc, les milléniaux, la génération des moins de 30 ans, sont très durs à aller chercher. C'est pas la radio ni la télé traditionnelle qui réussit à aller les chercher. Moi, j'enseigne à des étudiants qui ont autour de la vingtaine et quand je leur pose la question, ils n'écoutent jamais la radio, ils n'ont pas le câble à la maison. Où est-ce qu'ils sont? Évidemment, ils sont sur le web. Donc, les podcasts, c'est une bonne façon de les attirer. Puis, ceux qui écoutent les podcasts, c'est généralement des gens un peu plus curieux et un peu plus éduqués, qui ont un peu plus de sous, tout ça. Donc, c'est intéressant parce que c'est je dirais, une bonne cible publicitaire. Donc, c'est vraiment un public intéressant parce qu'ils sont intelligents, sont allumés, ils ont des sous. Bref, c'est le public parfait quand on fait du podcasting. Il y a un autre article sur lequel je suis tombé de Forbes qui parle des promesses et des périls du podcasting. Pourquoi? Mais parce qu'il y a beaucoup de nouveaux auditeurs. Il y a vraiment un buzz au niveau du podcasting en ce moment. On a de plus en plus de données par rapport à l'écoute des podcasts. Ils sont un petit peu plus précises. Le coût de la pub est à la hausse. Généralement, c'est de 2 à 3 fois plus élevé le coût de la publicité dans un podcast que sur YouTube. Donc, c'est assez intéressant, mais le problème, c'est que Forbes a peur que certaines personnes abusent. On dit encore que la façon de mesurer n'est pas précise. Et ça me tanne parce que on sait le nombre de downloads. Oui, à l'autre bout, c'est pas tout le monde qui va l'écouter, mais de plus en plus, les gens ne downloadent pas, l'écoutent live. Donc, lorsqu'ils l'écoutent live, on le sait, ça a vraiment, vraiment été écouté. Le podcasting fonctionne de moins en moins sous forme de download. Je pense qu'on peut faire confiance à ces données-là. En même temps, si on compare à la radio, où est-ce que les gens écoutent la radio au travail durant le jour, mais ils ne portent pas attention, ou les gens qui ont la télé allumée chez eux et qui ne sont même pas en train de la regarder, c'est juste un bruit de fond, une image, une présence qui est là. Le podcasting, on a fait des recherches, on a fait des choix, il y a une écoute active qui est là. C'est là qu'est la valeur publicitaire. Donc, je mets un bémol sur l'article du Forbes, même si il est quand même assez intéressant. Une autre nouvelle, c'est le producteur Norm Pattiz qui veut devenir le roi du podcasting. Sa start-up s'appelle Podcast One et a fait la promotion de 200 shows avec entre autres l'humoriste américain Adam Carolla et aussi Shaquille O'Neal. Je ne sais pas si vous saviez que Shaq a un podcast. À la base, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de placement publicitaire. Il dit que c'était une business de 34 millions avant son arrivée et qu'il veut ajouter un zéro, c'est-à-dire multiplier par 10 le chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même gros. Comme ambition. Mais je pense qu'il est capable de le faire parce que Norm Pattiz, c'est un producteur traditionnel de télé, un gars reconnu aussi. Et sa business, ils ont déjà racheté d'autres business de placement, de publicité dans les podcasts. Donc, je pense qu'il est vraiment là pour réussir à faire ce qu'il a dit. Et en tout cas, je lui souhaite vraiment bonne chance. Il y a un texte sur lequel je suis tombé qui est assez intéressant, qui parle de comment la compagnie Mack Weldon a réussi à doubler ses ventes grâce au podcasting. Donc, ils ont fait une publicité humoristique qui est diffusée dans divers podcasts et vraiment, ils ont réussi totalement à doubler leurs ventes. Qu'est-ce que c'est la compagnie Mack Weldon? Ils font des sous-vêtements. Donc, ils se sont adressés de façon sympathique à des gens qui écoutent les podcasts, ben on l'a dit tout à l'heure, c'est des gens éduqués, des gens qui ont des sous, des gens qui n'ont pas nécessairement toujours du temps et qui achètent beaucoup, beaucoup en ligne. Et ils ont réussi ce tour de force-là en investissant seulement 25% de leur budget de pub total dans les podcasts. Donc, c'est un tour de force quand même. Ça me fait penser à GoDaddy. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent les débuts de GoDaddy il y a une dizaine d'années. Où est-ce que ça a explosé? Parce que il y avait des codes GoDaddy que les podcasters avaient. Par exemple, si moi j'en avais eu un, j'aurais dit, pour 10% de rabais, rentrez chez GoDaddy, Québec Balado 1. Pour 5$ de rabais sur un autre domaine, rentrez Québec Balado 2. Donc, c'était une façon de savoir qui avait acheté avec ces codes-là. Donc, mais surtout, ça a fait en sorte que GoDaddy est devenu vraiment la façon d'enregistrer ces noms de domaine la plus répandue en dedans de peu de temps. Donc, je vais vous mettre un lien dans les notes de l'émission si généralement la vente en ligne et aussi la publicité dans les podcasts vous intéresse. C'est un texte intéressant. Il y a un autre texte qui dit que seulement 20% des podcasters poursuivent l'aventure. Donc, seulement 20% des podcasters forment votre compétition. Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés pour dire seulement 20% ou c'est évalué par rapport à quelle période de temps, mais je dois dire que le podcast moyen ne dure pas plus de 10 épisodes. Je dirais pas que c'est très rare parce que c'est très fréquent qu'on dépasse 10 épisodes, mais beaucoup, beaucoup de podcasts meurent avant la 10e épisode et c'est la grande majorité. Donc, notre compétition est pas si énorme que ça entre les podcasts. Faut savoir se démarquer. Je pense que c'est le secret. Faut vraiment se démarquer. Faut trouver une façon d'être mieux répertorié, toujours. Moi, pendant un bout de temps, ben vous le savez, j'ai fait moins de podcasts. Je me suis moins occupé de ça. Il y a d'autres personnes qui ont un peu pris de la place, qui ont un peu pris la relève. Je reviens un peu et là, je recommence à faire mon travail de SEO, de mon travail d'optimisation, de et ça marche en maudit. c'est ça, il faut toujours travailler un peu plus pour se démarquer. Une autre nouvelle, c'est que les podcasts d'horreur et de suspense sont vraiment à la mode. L'an passé, j'en écoutais un peu. J'étais tombé sur Night Vale, sur The Message. Il y a aussi Lore, il y a The Black Tape. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et ils sont extrêmement populaires, vraiment. Il y a un engouement pour ce style-là qui n'était pas très présent avant. Oui, il y avait des podcasts de fiction, mais vraiment, où est-ce qu'il y a des gros, gros suspense, ils n'avaient pas tant que ça auparavant. Et vraiment, c'est une belle tendance en ce moment. Une autre nouvelle, c'est que NPR a fait des expériences audio sur Facebook pour voir le comportement social des gens lorsqu'ils avaient affaire à des podcasts ou à de l'audio en général. Et je vous donnerai pas tous les détails, vous irez lire le texte qui est vraiment fascinant. Ils ont eu un accès privilégié aux players audio de Facebook d'une manière que vous et moi, on n'a pas accès malheureusement. Et la façon qu'ils l'ont utilisé est aussi intéressante. Ils ont fait des tests au niveau de leur façon de d'écrire le titre, le type de contenu, les moments où est-ce qu'ils publiaient, etc., etc., les liens. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que l'audio, elle est performante quand elle est entre, je ne me rappelle plus exactement la durée, mais c'est quelque chose comme entre 35 secondes et 2 minutes 45 environ. Quand on dépasse le 3 minutes, on perd des gens. Et quand on est trop court aussi, c'est pas assez. Donc, il y a un sweet spot autour des 2 minutes, je dirais. Dans ce temps-là, ben c'est un teaser. ça prend ça, je pense. Et je fais un lien avec le petit utilitaire Clamour que j'ai parlé tout à l'heure. C'est une tendance aussi de produire de l'audio court pour titiller les gens, leur donner le goût d'aller écouter, mettre un lien cliquable, on clique, ils vont sur notre podcast, ils écoutent, ça leur plaît, ils s'abonnent. Donc, il y a des choses à essayer de ce côté-là. Évidemment, ça prend du temps pour ça. Mais bon, je risque sûrement d'essayer des petites choses de ce côté-là. Donc, je vous fais jouer une autre chanson et je vous parle tout de suite après. Ça s'appelle « Why Was I Born ?» C'est par Kenny Burrell et le très grand John Coltrane. C'était bon ça? Oui, avec John Coltrane. Je vais vous donner des nouvelles en vrac à propos du podcasting. La première qui est assez intéressante, c'est que certains podcasts sont adaptés pour la télévision ou certains podcasts mènent à la télévision. On n'a qu'à penser à Mark Maron, l'humoriste américain qui a fait un show pour Netflix, par exemple, un spécial l'an passé. Il y a le podcast Serial qui a été extrêmement populaire. Ça a été annoncé, je crois, l'automne passé que ça sera adapté à la télé. Mais récemment, il y en a d'autres. Il y a entre autres le podcast d'horreur Lore que j'ai parlé tout à l'heure qui va être adapté lui aussi. Ainsi que le podcast Limetown. Limetown, c'est un audio-drama. Je ne sais pas comment le traduire en français. Et il y a aussi le podcast humoristique Throwing Shade qui va être adapté pour la télévision. Donc, c'est une tendance, donc c'est une nouvelle tendance où est-ce que on démarre dans le podcasting et on se retrouve à la télévision. Il y a aussi Amazon qui lance ses Audible Channels. Donc, Amazon qui est derrière Audible. Audible sont des livres audio. Donc, ils lancent des channels, donc des podcasts payants. Ils veulent devenir en quelque sorte le Netflix du podcasting. Je trouve que c'est un principe intéressant. En même temps, d'essayer d'embarrer le podcast et le rendre payant obligatoirement, je trouve ils vont peut-être réussir, j'en doute pas. En même temps, je trouve ça un peu triste, un peu plate, parce que c'est justement un médium qui est libre et disponible. Il y a aussi MTV qui investit dans le podcasting pour contribuer à sa relance. Et ben, il y a lieu de se poser beaucoup de questions parce que le public premier des podcasts n'est pas nécessairement très jeune. C'est beaucoup justement des 35-50 ans qui écoutent des podcasts. Peut-être qu'ils veulent se réapproprier leur auditoire d'origine, ceux qui écoutaient ça quand ils étaient jeunes dans les années 80. Je ne sais pas c'est quoi leur réflexion en arrière de ça. En même temps, c'est une bonne façon peut-être de redistribuer du contenu ou donner du contenu original qui est complémentaire au contenu de la chaîne de télé. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Il y a Forbes qui lance aussi son réseau de podcasts. Donc, 11 podcasts sur l'entrepreneuriat, le mentorat, le démarrage d'entreprise. Donc, si c'est vraiment votre tasse de thé, tout ce qui est entrepreneurial, je pense que vous devriez regarder de ce côté-là. Donc, chaque podcaster produira 12 émissions au cours des 6 prochains mois. Donc, on pourrait dire 12 émissions en 6 mois, c'est pas énorme. En même temps, c'est une émission à toutes les 2 semaines. Donc, il faut quand même être assez régulier. Je vous mets les liens dans les notes de l'émission. Il y a aussi le Financial Times qui a annoncé qu'il y a eu 45 millions de téléchargements de ses podcasts l'an passé. C'est quand même massif si on compare aux autres podcasts. En même temps, ce qu'il y a de eux, c'est qu'ils produisent beaucoup de shows. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'émissions qui se séparent cet auditoire-là. En même temps, s'ils le font, c'est parce que c'est rentable. Je vais vous parler un petit peu lors du prochain épisode, peut-être plus du placement publicitaire dans les podcasts. Ça va vous montrer que si vous comparez aux 45 millions de téléchargements, oui, c'est très, très rentable pour le Financial Times de produire des podcasts. Il y a le réseau Blueberry qui a annoncé qu'il y avait en ce moment plus de 300 000 shows. Blueberry, c'est quoi? C'est un réseau de podcasts, de publicité aussi dans les podcasts, ce qui en fait en ce moment le plus grand répertoire de podcasting à l'extérieur de iTunes. Ils font aussi le plugin pour WordPress, et pour l'analyse des téléchargements que moi j'utilise. C'est PowerPress que ça s'appelle. Je dirais que le fait qu'ils ont un si grand réseau comme ça, c'est aussi la faiblesse. Parce que l'avenir en ce moment n'est pas à avoir le plus grand réseau à tout prix. L'avenir est ce qu'on appelle au curated content, c'est-à-dire à du contenu qui a été formaté, qui a été sélectionné et du contenu de très grande qualité. C'est ce que font les nouveaux joueurs qui arrivent sur le marché. On n'a qu'à penser à Midroll ou à, c'est quoi le nom de la compagnie que j'ai nommée tout à l'heure. Bref, ces nouvelles compagnies-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sélectionnent les meilleurs podcasters. Ils sélectionnent ceux qui sont le plus populaires et ils les enrôlent sous leur marque, en quelque sorte. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec Blueberry parce que je pense qu'ils sont rendus à un niveau où est-ce que, tu sais, ils sont à un point de rupture. Il y a tellement de shows, on se perd là-dedans. N'importe qui peut mettre de la pub. En même temps, les annonceurs ont plus ou moins de contrôle sur qui annonce leurs produits. Donc, je ne suis pas sûr que c'est une si belle nouvelle que ça pour Blueberry, mais en même temps, peut-être que je me trompe. Je crois que c'est pas mal ce que j'avais à vous dire au niveau des nouvelles sur le podcasting aussi. Je vais vous parler un petit peu du prochain épisode. Je l'ai mentionné tout à l'heure, en fait. Je vais parler de l'argent et de la pub dans les podcasts. Donc, je vais parler de la relation entre l'argent et le podcasting, comment ça a changé depuis 10 ans, parce que il y a 10 ans, c'était mal vu de faire de l'argent avec le podcasting, d'être rémunéré, tout ça. Aujourd'hui, il n'y en a plus de problème à ce niveau-là. Sauf qu'il y a d'autres problématiques quand on veut rentabiliser son podcast, quand on veut mettre de la publicité. Et il y a différentes façons de le faire aussi. Donc, je vais vous parler de un peu tout ça lors du prochain épisode. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Bon, j'ai mentionné tout à l'heure les mystérieux étonnants qui ont fait une campagne Indiegogo. C'est juste un simple exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, puis on va en parler très bientôt. Si vous avez des commentaires, faites-le à québecbalado@commercial.gmail.com. N'oubliez pas d'aller mettre des petites étoiles dans iTunes ou des commentaires. Ça me fait non seulement extrêmement plaisir, mais en même temps, ça m'aide beaucoup. Ça me donne du willing pour continuer à produire des shows régulièrement. Donc, je vous lève mon verre de bière, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec une dernière chanson de jazz. Cette fois-ci, on termine en beauté avec Miles Davis et I Could Write a Book. Ciao, à très bientôt. Thank you.